présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Qu'elle a fait les bottes débranchements, et va s'asseoir sur une chaise. La chaise est à côté du lit. Il est allongé, sans bouger. Son mari a des rôles. Il suffoque. Il a des secousses nerveuses. Il devient blanc, bleu. Les yeux s'ouvrent. Il suffoque de plus en plus. Les tremblements sont de plus en plus forts. Cela est insoutenable à voir. Et ce rôle. Elle en a des sueurs froides. Les râles sont de plus en plus forts. Les tremblements aussi. Puis, petit à petit, il diminue. Le râle devient de moins en moins audible. Le corps se raidit. Elle prend peur, panique. Vouloir tuer quelqu'un, elle demandait à une personne c'est une chose. Mais tuer soi-même une personne, c'est autre chose. Elle n'entend plus qu'un sifflement, se penche vers lui. D'un coup, elle se lève. Et en tremblant, elle remet en place les tuyaux pour lui redonner l'oxygène, la respiration. Dès qu'elle a remis l'oxygène, sa respiration devient rapide et forte. Il reprend des couleurs. Sa poitrine se gonfle. Sa respiration est très forte. Puis, elle devient normale. Les larmes aux yeux, elle se penche vers lui, l'embrasse sur le front et lui dit « Pardonne-moi, pardonne-moi. » Et elle se sauve en courant. Elle est sortie de l'hôpital sans être vue. S'effondre sur son lit, tout habillé, et pleure. Le téléphone sonne. Le téléphone est sur sa table de nuit.
Allô? Oui.
C'est moi, alors.
Je n'ai pas pu. Pardonne-moi.
Tu n'es qu'une conne. Adieu.
Elle panique et lui dit « Attends, je l'ai débranché au moins un quart d'heure. C'est peut-être suffisant. Si tu l'avais vu, il était près de la mort.
T'aurais dû l'achever.
Je suis lâche. Pardonne-moi. Je te tiendrai au courant. »
Demain, elle retourne à l'hôpital. Et comme à son habitude, elle demande à l'infirmière
« Est-ce que tout se passe bien ?»«
Oui, madame. »«
Ne vous faites pas de soucis, » elle lui dit. « Et chichiquement, la mémoire ?»«
Là, pour ne pas savoir, je vous dis que tout se passe bien parce qu'il respire normalement. » Mais on ne sait pas pour le reste.
Les jours passent. Et un jour, elle reçoit un appel téléphonique. Riquin qui lui dit « Votre mari est définitivement réveillé. »«
Comment va-t-il ?»«
Très bien. Nous allons lui faire des tests. Il n'y a plus besoin de soins intensifs. »«
a-t-il retrouvé toutes ses fonctions intellectuelles ?
Absolument. Nous allons lui faire des tests. Vous pouvez venir le voir. Les visites sont de 14h à 21h. Chambre 152.
Merci.
Elle entre dans la chambre. Son mari est allongé dans un lit, sous le drap. Il a encore des pansements à la tête et à la poitrine, mais n'a plus de tuyau. Elle s'avance vers le lit.
Elle voit qu'il est réveillé.
Bonjour. Je suis très heureuse que tu sois guérie.
Il lui dit, bonjour. J'ai encore mes pansements et je ne peux pas bouger.
Elle lui demande, tu souffres?
Non, ça va. Je suis très fatigué.
C'est normal. Tu as eu un très grave accident. On t'a opéré de la tête et de la poitrine. Tu t'en souviens?
Non, de rien. Sûrement le choc.
Et tu te souviens d'avant l'accident?
Oui, bien sûr, puisque je te reconnais.
Elle se pince les lèvres.
Mais tu te souviens de tout?
Mais ma chérie, voyons, ne crains rien. Je me souviens de nous deux et tout. Tout va bien aller.
Elle embrasse sur le front. Les larmes aux yeux.
J'en suis très heureuse.
Les jours passent. Elle va le voir tous les jours et le voit reprendre des forces et ses facultés mentales. Elle téléphone à son amant et lui dit
« Il est normal et a toute sa mémoire. Mais ne parle pas de divorce. »
Il lui dit peut-être qu'il a oublié. Ou n'en veut-il plus?
Les jours passent. Un jour, Riquin lui dit
« Tout se passe bien. Il est complètement guéri. Vous pouvez le reprendre chez vous. »
Il se repose un peu et reprend ses activités.
Elle lui demande « Et du point de vue du cerveau ?»«
Tout va bien. Il est comme avant. Il ne lui manque rien. Votre mari vous est rendu en entier. »
Elle lui dit « Merci, docteur. J'en suis très heureuse. Je peux le ramener à la maison quand ?
Eh bien, demain, si vous le désirez. »
Elle réfléchit et lui dit
« Le temps que je prépare tout, demain après-midi. »
Arrivée chez elle, elle fait préparer la chambre de son mari. Téléphone à son amant qu'il revient vivre chez lui. Prépare des menus légers pour lui. Et, à 14h, elle va en ambulance chercher son mari.
Le retrouve dans sa chambre, habillé, rasé, avec une petite valise près de lui. Elle lui trouve le teint clair et rajeuni. Elle va vers lui, l'embrasse et lui dit «
Je viens te chercher, tu es heureux ?»«
Oui, très.
Elles prennent la valise et sortent de la chambre.
Là, il y a deux infirmières qui le maintiennent pour marcher et aller jusqu'à l'ambulance. Se trouve à la sortie. Il leur dit « Je venais vous dire au revoir. » Elle lui dit « Merci pour tout, docteur. » « Ce n'est rien, madame. » Elle lui dit « Vous me le rendez rajeuni. » C'est parce qu'il n'a pas travaillé et resté allongé. Il ne se fatigue pas trop. «
Oui, docteur. »
Elle est au petit soin avec lui et est constamment près de lui. Au début, il reste presque tout le temps au lit. Il y a une infirmière qui vient lui faire des soins, piqûres, pansements, etc. Petit à petit, s'alimente normalement, marche une heure. Puis un kiné vient lui faire faire des exercices. Riquin vient le voir de temps en temps et dit que tout se passe très bien. Il recommence à écouter la radio, lit les gros titres du journal. Il semble heureux d'être près d'elle. Elle ne peut aller voir son amant, mais lui téléphone de temps en temps. Elle lui dit qu'il reprend des forces et qu'il ne parle de rien. Les jours passent. On lui enlève des pansements, soudures. Il a des radios à faire pour voir si tout va bien. Et tout est rentré dans l'ordre. Riquin les a convoqués dans son bureau.
Monsieur Hubert Combeau est complètement guéri.
Deux semaines plus tard, il a repris ses activités, s'occupe de son entreprise d'équipement bureau. Elle se retrouve seule la journée, mais n'ose pas aller voir son amant. Un soir, en pyjama, il va la rejoindre.
Entrez. Elle est déjà au lit. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Tu désires quelque chose ?» Il lui dit « C'est-à-dire que ça fait longtemps. » Que nous n'avons pas été ensemble. Je veux passer la nuit avec toi. » Elle lui dit, « Oui, bien sûr, chérie. » Il sourit et se couche à côté d'elle.
Il la prend dans ses bras et lui demande, « Ça ne t'a pas manqué ?»«
Oui, bien sûr, mais je ne voulais pas te fatiguer. »«
Mais ça ne... moi, ça m'a manqué énormément. »
Il allonge et l'embrasse sur les lèvres. Il n'a pas quitté la veste de son pyjama à cause de la cicatrice. Ça a été agréable pour tous les deux, même à elle, parce que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait. Désormais, ils se voient une fois par semaine. Tout va bien, les jours passent. Il est complètement guéri, semble heureux, a un bon physique. En le voyant, elle se dit qu'il a rajeuni et qu'il est plus séduisant. Un soir, il lui dit
« Tu devrais organiser une petite soirée dansante pour qu'on le revoie et nos amis. »«
Si tu veux, mais que veux-tu que l'on invite ?»
Il lui dit « Je n'ai pas vraiment de préférence. Fais une liste. »
Le soir au salon, elle lui montre la liste qu'elle a faite. Il la lit.
C'est très bien. Mais il manque une ou deux personnes.
Et il rajoute des noms. Lui tend la feuille. Elle voit qu'il a mis le nom de Georges. Elle lui demande
« Pourquoi ces noms en plus ?»
Il lui dit
« Parce que c'était des gens que l'on voyait avant et j'aimerais savoir s'ils me reconnaissent vraiment. Cela ne te gêne pas ?»«
Non, pas du tout. »
Une fois qu'il est parti, le lendemain matin, elle téléphone à Georges.
Allô, c'est moi. Il t'invite à une de nos soirées. Et c'est lui qui a marqué sur la liste des invités ton nom.
Il lui demande, que faire ? Elle lui répond,
rien, il faut que tu viennes.
Tu crois qu'il va faire quelque chose ?
Je ne sais pas, il a l'air tout à fait normal.
Bon, je viendrai.
Je t'enverrai une invitation.
Une semaine plus tard, la soirée a lieu dans la maison, le parc, orchestre, buffet, serveur en veste rouge et pantalon noir. Les invités en tenue de soirée, les femmes en robe du soir chatoyante, les hommes en smoking. Il y a du monde. Ricain aussi est invité pour le remercier de ce qu'il a fait. Tout le monde vient voir le maître de maison et le félicite de sa bonne mine. Puis, ils vont voir et remercier Ricain. On pose à Ricain des tas de questions sur la médecine, les nouvelles technologies. Les femmes sont folles de chirurgie esthétique. Elles veulent toutes prendre rendez-vous avec lui. Les hommes lui parlent de greffe. Ricain remplit son carnet de commandes. Christine surveille tout ça d'un œil. Elle surveille surtout son mari qui semble heureux et calme, très calme. Elle va vers lui et lui demande « Comment te sens-tu ?»«
Bien, très bien. »
Et il l'embrasse sur la joue. Et la soirée se poursuit. L'on danse, bavarde, mange, boit. Albert voit passer devant lui Georges.
« Georges !»
Georges se retourne. Albert va vers lui et lui dit
« Je suis heureux de te revoir. »
Moi aussi. Comment allez-vous ?
Albert lui dit, eh bien, comme ça, la forme. Et toi ?
Oh, moi toujours pareil.
Albert lui demande, tu es toujours sans emploi ?
Oui, et je cherche quelque chose de pas très chiant.
Albert lui dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Justement, il me manque un représentant.
Ça t'intéresse ?
Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Merci. Bon, eh bien, viens me voir, disons, demain soir. Mais ne dis rien à ma femme. Elle ne veut pas que tu travailles avec moi.
Je vous le promets.
Et il se dit, il ne dit rien à la maîtresse de maison. Il se dit,
je serai moins dépendant d'elle. Si je travaille, c'est une bonne chose.
Et la soirée se continue.
Et le lendemain, Georges va au rendez-vous du mari. Il appuie à l'interphone.
Oui,
je suis Georges.
Oh, Georges, entrez.
Le portail s'ouvre. Georges entre. Il va jusqu'à la maison. Sonne à la porte. La porte s'ouvre. Il entre.
Georges dit, Albert, où êtes-vous ?
Pas de réponse.
La maison est dans la demi-pénombre.
Y a quelqu'un ?
Il y a
quelqu'un ?
Il avance.
Il y a quelqu'un ?
Mais c'est quoi faire ?
C'est une farce ? Bon, eh bien, je m'en vais.
Et se retourne vers la porte. La porte est fermée à clé. Il essaie d'ouvrir. Elle est bien fermée.
Arrêtez cette farce. Ce n'est pas drôle. Où êtes-vous ?
Il va vers une porte. Il ouvre. C'est le salon qui est dans la pénombre. Il y entre.
C'est complètement fou. Je vous préviens. Je compte jusqu'à 3. Et je me sauve, quitte à casser une vitre. 1,
deux, trois. Oh ! Une masse fonce sur lui avec un couteau. Il a reçu le coup de couteau à pleine poitrine, le sang giclé. Georges est mort du premier coup de couteau. Mais on continue à le poignarder. Il en reçoit au moins 100 coups de couteau de partout. Puis, essoufflé, il lâche ce couteau ensanglanté. Se soulève. Éclair. C'est Albert, en blouse grise, taché de sang. Son visage aussi est taché. Il est en sueur. Il regarde le corps ensanglanté, défiguré sur le tapis qui a une mare de sang. Vite Albert, sur les meubles du tapis. Et roule le corps dans le tapis. Puis, prend le corps sur son épaule. Il sort du salon. Longe le couloir. Une porte, ces escaliers qui descendent à la cave. Là, en bas de la cave, il y a une table. Il pose le corps sur la table. Prend un fût plein de soude et d'acide qui met à côté de la table. Déshabille le corps. Jette les vêtements à terre.
Commence la découpe. Un coup de hache pour trancher la tête et la mettre dans le fût. Des coups de hache pour les membres inférieurs et supérieurs. Maintenant le tronc. Un coup de hache et de scie. Il est en sueur. Du sang qui gicle de partout. Fais ça froidement. Minutieusement, comme un boucher, même mieux qu'un boucher. Chaque morceau découpé est mis dans le fût. Il ne pense à rien, juste à bien faire. Pour lui, c'est un travail comme un autre. Ce n'est pas un homme qui découpe, mais une chose, et même mieux, c'est un homme, mais cela ne représente rien pour lui. Une fois que la chose est faite, que le fût est bien rempli, il le ferme, prend les vêtements du mort et les siens et jette le tout dans la chaudière.
nettoie la cave calmement, proprement. Sonne la cave après avoir nettoyé la scie, la hache et le couteau. Il remonte à la salle de bain pour se laver. Ensuite, il va au salon.
Au parquet. Il remet les meubles en place. Satisfait de lui, du beau travail. Et se sert un bourbon. Puis, il attend le retour de sa femme.
Elle revient 2 heures plus tard. Elle était allée à un concert avec des amis. Il n'avait pas voulu y aller. Elle va le retrouver au salon. Elle a un tailleur rouge.
Se penche pour l'embrasser.
Elle lui demande : Ça va ? Oui, très bien. Et toi, ton concert ?
Très bien. Et toi ?
Moi ?
Oui. Tu as vu Georges ?
Georges ?
Oui. Tu avais bien rendez-vous avec lui, non ?
Il lui dit :
Qui te l'a dit ?
C'est lui.
Tu es bien intime avec lui.
Moi ?
Oui, toi. Tu l'appelles Georges.
Eh bien, oui.
Il t'a dit que qu'il devait me voir ici?
Oui, bien sûr.
Comment ça? Il n'y a pas de bien sûr.
Mais pourquoi te mets-tu en colère?
Moi, je me mets pas en colère. Mais je me mets pas du tout en colère. Je comprends parfaitement bien que tu veux savoir si j'ai vu Georges. J'ai fait beaucoup de choses ce soir. Tiens, viens voir.
Elle soupire et lui dit : Alors tu n'as pas vu Georges ?
Je ne dis pas ça. Je vais te montrer quelque chose, ma chérie. Viens voir.
Elle le suit. Ils sortent du salon. Longe de couloir.
Tu me mènes à la cave?
Pourquoi?
Tu me mènes à la cave? Mais pourquoi faire?
J'ai quelque chose d'important à te montrer.
Tu me le feras voir demain matin.
Non. Parce que demain, je dois partir tôt. Et je dois régler ça ce soir. Allez, viens. Je vais avoir encore beaucoup de choses à faire. Je vais travailler toute la nuit.
Elle soupire et lui dit : Oh, allons voir. Il y a une fuite ? Des rats ?
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Une fois arrivé en bas, elle lui dit :
Eh bien, montre-moi.
Il lui dit, tu vois les deux fûts, ou celui de gauche?
Elle va vers le fût de gauche. Elle l'ouvre.
Mais il est vide.
Il va être bientôt plein. Ouvre l'autre.
Elle se penche.
Essaye d'ouvrir l'autre. Mais c'est dur. Tu ne peux pas m'aider?
Elle se penche encore.
Et arrive à ouvrir le couvercle.
En même temps, elle reçoit un coup de couteau dans le dos.
Puis, des coups de couteau, des coups de couteau, des coups de couteau.
Elle est tombée, en avant, ensanglantée.
Il continue à lui en donner, d'une façon froide, sans sensibilité.
Ça ne lui fait rien. Il sait qu'il la tue, mais cela ne lui fait absolument rien.
Plus tard, va voir dans le bureau de Riquin le médecin qui fait les soins à Albert. C'est un homme grand, sec, cheveux blonds, dans les 35 ans. Il porte un costume gris.
Riquin lui dit, vous avez demandé à me voir, je vous écoute. Le médecin lui dit,
eh bien voilà, je suis inquiet. Mon patient, je le trouve de plus en plus, disons, froid, insensible. Il est normal, mais avec un je ne sais quoi de bizarre. Et en plus, sa femme n'est jamais là. Cela me paraît étrange. J'ai parlé à la bonne. Elle m'a dit que sa maîtresse était absente d'un coup et qu'elle ne savait pas où elle était.
Riquin demande, il a des réflexes comment?
Un peu vif, mais bon.
Riquin réfléchit.
On n'a rien vu d'anormal, mais on ne sait jamais.
Mais on le convoque ici pour une visite
et vous irez avec quelqu'un dans la maison et pour la visiter de fond en comble.
Ou mieux,
vous demanderez à la bonne les clés pour qu'elle fasse entrer un de nos hommes pour qu'on visite la maison.
Oui, d'abord visiter chez lui. Après, on fera venir.
Vous le ferez dormir. Et comme ça, vous pourrez visiter. Après, qu'on aura visité chez lui, nous le convoquerons ici. Occupez-vous-en.
Bien, monsieur.
Au cours de la dernière visite, le médecin, avant d'aller chez le malade, dans sa chambre, dit à la bonne.
J'ai à vous demander pour des raisons médicales. Voilà, il faut que l'on visite la maison pour voir si votre maître se comporte bien. Cette nuit, vous lui donnerez ceci, pour le faire dormir. Comme cela, il n'entendra pas. Je reviendrai vous trouver à quelle heure ?
19h.
Bien. Vous allez lui donner de suite. À 21h, vous ferez entrer une personne pour visiter la maison.
Bien, monsieur.
Le soir, lorsqu'il revient, la bonne lui donne son médicament. Une demi-heure plus tard, il se sent fatigué et va se coucher. Un quart d'heure plus tard, il s'endort. À 21h,
elle ouvre la porte à Rika.
Suivi d'elle, il visite toute la maison et même la cave. Là, il trouve les fûts qui ont une odeur de soude étrange. Il les a ouverts en faisant éloigner la bonne. Et a vu. Il n'a rien dit à la bonne. Il lui a dit de ne pas aller à la cave et de ne rien dire. Le lendemain matin, Albert reçoit une lettre de convocation pour la clinique pour la fin de la semaine. Visite routinière. Riquin et avec Danfort dans son bureau. Il lui dit :
son cerveau a été touché, mais ce n'est pas la mémoire, mais le côté de la sensibilité morale. Il est tout à fait insensible, psychopathe. Il est capable des pires abominations sans sensibilité. C'est une machine froide. Il savait dès son réveil ce qu'il allait faire, et il l'a fait froidement. Danfort lui dit : il faut que personne ne le sache, ça nous ferait une très mauvaise publicité.
Riquin lui dit : je l'ai convoqué, pendant qu'il sera ici, je vais prendre les fruits et les détruire, plus de traces de ses crimes, puis lui, je l'élimine. Albert va à la clinique de Riquin. L'hôtesse le mène directement au bureau de Riquin.
«
mettra le pas à la porte. Entrez, monsieur. Il entre. Riquin se lève et lui dit, venez vous asseoir, monsieur.
Riquin lui dit, voilà, je vous ai fait venir, c'est pour une visite de contrôle, pour voir si tout est bien remis en place. Je vais vous faire passer des tests et une visite médicale. Comment vous sentez-vous ?
Très bien, en pleine forme. Je ne suis jamais senti aussi bien. Je suis prêt à tout. Je suis tellement en pleine forme, c'est que je me sens capable de courir pendant 20 km.
Très bien.
Pendant ce temps, on continue à fouiller la maison. Riquin lui fait voir des photos de corps mutilés. Il demande de décrire les photos. Il le fait sans compassion. Puis le met devant un écran et lui montre des couleurs. Il ne ressent rien sauf pour le bleu ciel où ça lui fait mal. Ensuite, Riquin lui fait faire un électrocardiogramme des radios du cerveau. Puis lui pose des questions. Décrire un acte immoral, qu'est-ce que la bonté, la pitié. Il ne peut répondre à tout ça, ces mots n'ont pas de sens pour lui. Après tous ces examens, Riquin regarde tous les résultats et lui dit
« Encore une chose, après ce sera fini, venez avec moi. »
Albert le suit. Sortent du bureau. Entrez. Riquin l'a fait rentrer dans une pièce où il y a une chaise devant une table. Il lui dit, asseyez-vous. Il s'assoit sur la chaise. Riquin prend sous la table une piqûre. Il soulève ses vêtements de la manche et le pique. Sa tête retombe devant sa poitrine. Riquin sort de la pièce. Il dit à une infirmière, vous pouvez le jeter dans le four, c'est fini.
Officiellement, lui et sa femme ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. L'incident est clos. Et les jours passent. La décoration du bateau se fait, le plus beau, le plus grand du monde jamais fait. De vrais appartements, privés et pour le personnel, du grand luxe. Des appartements comme dans les hôtels 4 étoiles. Et une machinerie ultra moderne, avec des moteurs atomiques sans la radioactivité. Pour le continent, on a commencé à planter des arbres, arbres fruitiers et autres, qui sont résistants au climat, aux bactéries, maladies de toutes sortes et insectes. Le groupe Juntou et Pantois se marient et deviennent le groupe le plus important du monde. Ils détiennent l'eau, l'agriculture, les ordinateurs, la biotechnique industrielle et médicale, greffe, etc., l'alimentation diététique, les médias, télévision, radio, maison de disques, internet, maison de retraite, maison d'arrêt, puisqu'elles ont été privatisées du temps du vivant de Pontoise, l'aéronautique, la marine, etc., etc. Galien et Lucien ont discuté ferme pour cet accord et ont décidé le regroupement tout en restant indépendants vis-à-vis l'un de l'autre, mais regroupés dans un conseil d'administration. Et une année sur deux, le président c'est Juntou, l'autre année ce sera Pontois. Pendant que l'un est président, l'autre devient vice-président, etc. Le groupe Juntou-Pontois se retrouva dans un terrain neutre, ni chez l'un ni chez l'autre. Ce sera dans un immeuble de 50 étages, avenue de l'Opéra, où il y aura la bourse, la banque, les cartes à puce, banque de cartes à puce pour les achats, où se trouvera un centre bancaire pour avoir les cartes, un centre pour les produits qui sont à acheter, un centre pour l'informatique, internet, médias, multimédia, etc. Et un centre de surveillance pour les gens. Ce centre, ce sera un centre pour voir ce qu'ils font, pour savoir le plus d'informations possibles sur les gens, une espèce d'Interpol mondial. C'est le groupe Juntou-Pontois qui devient le groupe le plus puissant du monde, car il détient tout ce qui est vital. L'eau, l'informatique, l'alimentation, les télécommunications, la santé, la surveillance, les cartes à puce. Et lorsque le nouveau continent sera fini, toutes les entreprises et les deux sièges Juntou-Pontois iront sur le nouveau continent.